Genèse 50-20. Un passage merveilleux des Écritures. Vous le connaissez probablement par cœur. C'est le Romains 8-28 de l'Ancien Testament. Parce que dans ce verset se trouve le même principe. Romains 8-28, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, c'est dans l'histoire, la vie de Joseph, à la toute fin de sa vie. Et vous connaissez l'histoire. Et ça dit au verset 20, ici c'est Joseph qui parle à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce verset-là ici, ça résume la vie de Joseph. Pas compliqué, un verset qui résume toute sa vie. Mais surtout, c'est un hommage à la toute-puissance de Dieu. Notre dernier message sur le thème de la toute-puissance de Dieu. Et ce que je veux souligner dans le message de ce matin, c'est comment ici Joseph, et à travers toute sa vie, est un type de Jésus-Christ. C'est un chic type, là, OK? Mais il est un type, tout passe, et on voit ça dans la Bible. Une personne qui représente une autre personne, Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, souvent à travers la vie de certaines personnes, puis je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça, j'ai pas pris ça de mon imagination, c'est-à-dire que Joseph est une image, une illustration de qui Jésus est. Donc le vrai héros de l'histoire, c'est vous, c'est qui? C'est pas Joseph, c'est Dieu qui nous parle, nous montre à travers la vie de Joseph, Jésus-Christ. Parce que Joseph, dans le fond, il est un simple type ou une représentation de la rédemption qui est en Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ, de son œuvre. OK? Par exemple, dans le chapitre 40 et 41, on ne va pas tourner là, mais si vous tourniez là, vous constateriez que on voit Joseph qui est condamné injustement, qui se retrouve en prison avec deux brigands, dont l'un est acquitté et l'autre. Non, ça ne vous fait pas penser à la croix, ça? OK? C'est une image, c'est un type. OK? Un autre dans 41-14, à la fin de cet emprisonnement, il se rase, il se change de vêtements, puis là, OK, il est comme propre, comme un sous-neuf, c'est un type aussi de la résurrection, après avoir été, il n'a pas pu être retenu par les liens de la mort, il ressent renouvelé, OK? Encore là, c'est un type, c'est une image, Jésus est sorti, il a laissé le linceul là, les choses terrestres, puis il est sorti dans son corps glorifié. 41-14 est un type, une image de ça. OK? Et ça, c'est juste deux exemples. C'est incroyable comment il y a des exemples dans la vie de Joseph, de la vie de Jésus-Christ. Pourquoi je dis que le vrai héros de l'histoire de Joseph, c'est Jésus-Christ. OK? Parce que tout pointe vers lui. OK? Puis, pour amener ce message près de nous ce matin, là, par rapport au titre de mon message, c'est la toute-puissance de Dieu illustrée dans la vie de Joseph. On va considérer ensemble trois références au Dieu Tout-Puissant. On va aller voir là, si on prenait une concordance. Ben moi, je l'ai faite en préparant mon message. Mais si on regarde, on prend une concordance, il y a trois références au Dieu Tout-Puissant. C'est quoi le nom en hébreu de Dieu Tout-Puissant, vous rappelez-vous? El Shaddai. Okay? Trois fois, on voit ce nom-là dans le récit de la vie de Joseph. Okay? Et c'est significatif. On va aller en tirer ensemble la signification. Et le but de tout ça, on va souligner le fil conducteur qui est à travers tout ça, c'est quoi? L'espérance. Je crois que Joseph vivait d'espérance. Et s'il y en a qui avait bien besoin de vivre d'espérance, c'était Joseph. Ça n'a pas tout le temps été, mettons, comme il voulait. Mais il avait les yeux sur son Dieu, sur le but. Et pour être plus précis, pour ramener avec le verset qu'on vient de lire, l'espérance que Dieu est tout-puissant pour transformer le mal en bien. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant avec trois puissantes espérances que donne la toute-puissance de Dieu. Trois puissantes espérances que donne la toute-puissance de Dieu. D'abord, lisons dans le chapitre 43. On va lire les 14 premiers versets pour nous un peu nous imbiber dans cette section de l'histoire de Joseph. 43:1 jusqu'au verset 14. D'abord, la première espérance, c'est l'espérance de la restauration. Regardez bien Genèse 43, on commence au verset 1. La famine s'appesantissait sur le pays. c'est-à-dire le pays où est-ce que la famille de Jacob était, Canaan. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme, ça ici c'est Joseph, nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. » Ça, c'est le plus jeune Benjamin qui était resté en Canaan. « Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère? » Judas dit à Israël son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Israël, leur père, dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en porter un présent à cet homme, et un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Regardez le verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il fasse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Il faut comprendre ici ce qui arrive, l'arrière-plan de ce qu'on vient de lire. Vous savez, Judas, au verset 8, s'est présenté, il dit, « Ok, je vais rendre compte pour Benjamin. On l'envoie, puis c'est moi qui vais le garder si je vais répondre de sa vie. » Ok? Et ça, on comprend ça parce que, vous savez quoi? L'idée de vendre Joseph, je pense que Judas en avait lourd sa conscience, parce que l'idée, il voulait le tuer, mais là, Judas a dit, « Ah ben non, on va le vendre aux Ismaélites. » C'est lui qui a proposé ça dans le chapitre 37. Probablement qu'il y avait tout quelque chose sa conscience, de toute façon, on s'entend, là. C'est pour ça, je pense, qu'il s'est mis de l'avant comme ça et qu'il s'est porté volontaire pour protéger la vie de Benjamin. Il se porte garant de sa vie par sa propre vie. Pourquoi? Savez-vous quelque chose qui arrive à partir qu'on voit, là? La mort est dans la famille de Jacob. C'est incroyable. La famine menace leur vie. Là, il manque de nourriture. Encore la mort. OK? Ils vont en Égypte, sont menacés de mort. OK? C'est la mort partout. Depuis qu'ils ont voulu mettre à mort leur frère, la mort ne se détache pas d'eux autres. Savez-vous, c'est un type, ça aussi? C'est une illustration que le salaire du péché, c'est la mort. Puis quand on rejette notre Rédempteur, tout ce qui nous reste, c'est la mort. Ils ont rejeté celui qui est le type du Rédempteur. Il était sans espoir. Pas d'espérance. OK? Puis ça montre comment nous autres aussi, on est tous dans ce grand besoin d'avoir la vie, parce que la mort, c'est ce qui nous guette tous. C'est le salaire du péché. On est en besoin d'être restauré de ce salaire du péché qui est la mort. Puis c'est ça qui donne toute la valeur au verset 14, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. La seule façon d'être délivré de la malédiction de la mort, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, là où le péché abonde, là où la grâce surabonde. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui est capable de faire ça. Et Gardez ça en tête, puis lisez avec moi le chapitre 45, verset 1. OK? Parce qu'on comprend, là, avec ce que je viens de dire, le Dieu Tout-Puissant est au cœur même de toute cette affaire-là. Pour que les choses virent du bon bord, ça prend l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Il faut que la grâce de Dieu intervienne, parce que la mort s'attache à chacun d'eux autres. OK? C'est ça qu'il faut comprendre comme contexte. Mais regardez ça à l'esprit en lisant verset 1, 45:1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères. Pas pour rien quand je vous dis que Joseph est un type de Jésus-Christ, parce qu'ici, il n'est pas reconnu par ses frères la première fois qu'ils sont allés, puis il se fait reconnaître quand? La deuxième. Vous savez qu'Israël n'a pas connu Jésus quand il est venu la première fois, mais Zacharie 12:10 nous dit qu'ils vont le reconnaître quand il va venir la deuxième fois. Et ça, même c'est dans le récit inspiré de Actes chapitre 7, lorsqu'Étienne relate l'histoire d'Israël, il confirme ça, que Joseph n'a pas été reconnu la première fois, mais qu'il a été la deuxième. Zacharie nous dit qu'Israël n'a pas reconnu la première fois, qu'il a reconnu la deuxième. Savez-vous que ce n'est pas le seul? Moïse, c'est la même chose. Moïse, qui aurait voulu être le délivreur rédempteur quand il a tué cet Égyptien, il n'a pas été reconnu. Il a dit non, on ne veut pas que tu t'occupes de ça. Et c'est la deuxième fois, avec toute l'idée du buisson ardent et tout ça. Et ça aussi, Étienne, dans Acte 7, le confirme. Donc, tout ça, ça veut nous dire quoi? Jésus est la troisième personne. OK, Joseph, Moïse, Jésus est la troisième personne qui se présente comme étant celui qui délivre Israël. OK? C'est le troisième et le dernier. Il n'a pas d'autre après. Pourquoi? Parce que lui a accompli cette délivrance parfaitement. Avec l'œuvre de la croix du calvaire, la résurrection, la délivrance est accomplie. Mes amis, si ça, ce n'est pas l'espérance dans la restauration de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Que Jésus est venu s'occuper de ce qui n'avait jamais marché auparavant. Que Jésus est venu une fois pour toutes pour accomplir cette restauration. C'est pour ça qu'on peut avoir une pleine espérance dans la grâce de Dieu. C'est la phase initiale du fait que Dieu transforme le mal en bien. C'est qu'il est celui qui est tout puissant pour délivrer. L'espérance dans la délivrance. Mais remarquez qu'il y a une autre leçon aussi dans la vie de Joseph ici, que je ne veux pas qu'on manque. La délivrance ne prend effet que lorsqu'elle est reconnue et acceptée. Vous savez que Jésus est mort pour les Juifs. Il leur a offert la rédemption, mais la majorité d'eux autres n'en jouissent pas. C'est vrai aussi pour tout le reste du monde. Tout est accompli. Mais la délivrance n'est effective que lorsqu'elle est acceptée, crue, reçue. OK? Le salut en Jésus-Christ est complet, il est offert à tous. Parce que Jésus est déjà venu pour accomplir la délivrance complète et parfaite, mais il est seulement effectif lorsqu'il est accepté. Tant que vous êtes ici et vous avez une reconnaissance des faits de la rédemption de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus est mort pour vos péchés. Vous savez que vous avez besoin d'un sauveur, qu'il est le seul sauveur. Mais l'avez-vous reconnu pour vous? Savoir ces choses, ce n'est pas ça qui sauve. C'est se confier en elle. La rédemption, c'est se confier dans ce que Jésus a fait. Et là, on a vraiment l'espérance vivante. Là, on a reçu ce que Dieu nous a donné. Le salut, c'est pas la reconnaissance mentale de faits, c'est l'acceptation par la foi de ces faits. On a besoin de connaître les faits, mais on a besoin de les accepter, de les croire pour nous-mêmes. OK? Et ça fait 2000 ans que ce message retentit de l'œuvre parfaite de Christ. Il ne change pas, il n'y a pas de date de péremption dessus, ça ne passe pas date. Et ça va continuer aussi longtemps que la grâce de Dieu continue. Que le Dieu Tout-Puissant donne sa grâce. C'est la première espérance, l'espérance de la délivrance ou de la rédemption, appelez-le comme vous voulez, mais La deuxième espérance, c'est dans le chapitre 48, versets 3 et 4, l'espérance de la continuation. C'est quoi cette affaire-là? Bien, on va regarder ça ensemble. Chapitre 48, versets 3 et 4. Ici, une discussion à la toute fin de la vie de Jacob, Israël, avec Joseph. Alors, au verset 3, on peut lire, « Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. Deuxième mention du Dieu Tout-Puissant dans la vie de Joseph. Ici, c'est dans la bouche de son père que c'est prononcé. Et si la première, c'est la phase initiale, lorsque Dieu fait connaître sa rédemption, l'espérance de sa délivrance. Ici, c'est la phrase cruciale du fait, pour que Dieu transforme le mal en bien comme ça dans notre vie. C'est-à-dire, il faut savoir que Dieu n'a pas fini, que ça continue. Et là aussi, le contexte nous aide. Vous savez, on est là, ah, c'est le fun, c'est une histoire qui finit bien. Ils ont tout fini dans la meilleure place du pays d'Égypte, tout ça. Puis, oui, OK, parce que Dieu a béni. Puis, mais en même temps, c'était pas mal sombre. Ils sont pas dans terre promise. Ils ont 400 ans d'esclavage devant eux autres. OK, ils ne savent pas encore, mais c'est ce qui s'en vient. OK, nous, on le sait parce qu'on est tricheurs, on lit le reste de l'histoire. Sont en Égypte, là. C'est pas. C'est un pays païen qui n'a pas de crainte de Dieu, puis tout ça. Donc, c'est pas si. Si beau que ça. Ah, OK, Dieu a fait la promesse de la délivrance, il est tout puissant, mais ça va-tu continuer? C'est ça ici qui est en jeu. Parce que tout autour d'eux semble. Ça va-tu vraiment continuer? Ben, c'est ça l'espérance de la continuation, c'est savoir que Dieu est tout puissant pour assurer la subsistance, la continuité de sa restauration. Non seulement ça commence un jour dans notre vie, mais Dieu peut le faire pour tout le reste de notre vie puis de l'histoire d'humanité. Ce qui a commencé, il va continuer. Pour le dire autrement, dans les termes du Nouveau Testament, celui qui a commencé en nous cette œuvre, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Okay? Dieu est capable de faire ça, il est tout puissant. Pour que ce qui a commencé, de le continuer. Cette restauration spirituelle qui a commencé dans la vie de ses enfants, il est capable d'amener cette œuvre à la perfection. Et perfection, on sait que ce n'est pas ici sur terre, mais Dieu, un jour, sa rédemption, on va l'avoir complètement, parfaitement lorsqu'on va être au ciel. Et ça, c'est la puissance préservatrice de Dieu sur tous les effets du péché. Avez-vous pensé? Le péché est tenace, le péché est partout. Non seulement quand on va dans le monde, mais on l'a dans notre cœur, puis c'est persistant. C'est comme une tache qui ne veut jamais partir. Mais malgré ça, Dieu peut nous préserver de toute chute, nous préserver de tout mal. C'est ça l'espérance de la continuation, que Dieu a commencé quelque chose, puis il va le terminer. C'est pour ça que c'est la phrase cruciale. Sinon, c'est bien beau, on a eu un beau commencement, mais boum, tout tombe à terre. Ça ne serait pas un Dieu tout-puissant qui commence quelque chose, qui fait des belles grandes promesses, mais qui n'est pas capable de les faire tenir lorsque ça devient dur. On a besoin non seulement de l'espérance, de la délivrance, de la restauration, mais aussi de la continuation. Puis regardez, juste tourner, ben, vous n'êtes peut-être pas obligé de tourner la page dans vos bibles, mais juste le chapitre précédent, à la fin du chapitre 47, les deux derniers versets, regardez ici quelque chose qui est significatif. Verset 30. « Quand je serai couché... » Ici, c'est Jacob qui parle avec Joseph. « Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte. Tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Savez-vous que Hébreux 11, 21 nous dit que c'est par la foi qu'il a fait ça? Que c'est par la foi que Jacob, sur son lit, s'est prosterné comme ça. Je ne sais pas pour vous, moi je me suis déjà demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de la foi là-dedans? Je suis capable de m'asseoir sur mon lit et de me prosterner, ça veut dire que j'ai la foi. Ah, parce qu'ici, il faut voir, ça démontrait la direction, l'orientation du cœur de Jacob. Son cœur n'était pas en Israël. Son cœur était dans la terre promise. Son cœur était dans la terre des promesses. Et c'est comme ça qu'il a adoré. Il a dit, je veux que mes os y partent parce que les promesses, je crois qu'ils vont s'accomplir. Dieu a des promesses qui sont rattachées à une terre qui n'est pas celle-ci. Puis évidemment, on sait aussi qu'il y avait plus que juste la terre. La promesse la plus grande qui a été faite au patriarche, c'est la postérité. C'est Jésus-Christ, le Rédempteur, le Messie qui devait venir. Et Jacob reconnaissait ça. C'est pour ça que par la foi, il s'est adoré et il a dit, « Merci Seigneur, ça va s'accomplir. » Ce n'était pas encore arrivé, mais il savait que ce que Dieu avait commencé, qu'il allait le continuer. L'orientation de son cœur était là-dessus. Je partageais avec un frère dans le Seigneur qui est dans le ministère aussi, comment... C'est un peu comme... Paul était dans la ville d'Athènes puis était irrité à cette vue de cette ville pleine d'idoles. Puis j'y partageais, on était sans même longueur d'onde là-dessus. Comment on regarde autour de nous, c'est irritant de voir il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis il y a toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses qui c'est irritant. Puis par exemple, c'est drôle comment on voit tout à ce qui arrive le Fonds monétaire international, ils disent, ah, on va faire de cette crise l'occasion pour faire, ils appellent ça le Great Reset, ou si vous voulez, la grande remise à zéro. C'est-à-dire réingénierie de la société pour instaurer une nouvelle société technocratique où est-ce que, tu sais, tout est contrôlé, puis tu sais, ils ne vont pas amener seulement. Quand vous regarderez la vidéo, vous faites Fonds monétaire international, vous allez voir. Et sûrement qu'il est là en français aussi, mais Great Reset, la grande remise à zéro. C'est présenté, mon ami, ça va être la paix sur terre, on va avoir de la bono, puis tout ça. L'affaire qu'ils ne disent pas, par exemple, c'est que c'est Monsanto qui va nous donner notre nourriture, puis en tout cas. Tu sais que Satan met toujours les choses luisantes, là, mais. Et là, j'étais là, je partageais avec lui comment ça méritait, puis tout ça. Mais mes amis, comme Jacob, la solution ici, c'est d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, l'homme est tellement rien. Tu veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir des plans et tout ça. Dieu s'en rit dans les cieux. Dans Psaume 2, ça dit, Dieu s'en rit, je veux dire, faut réorienter nos cœurs vers les promesses immuables de Dieu. De ne pas se laisser détourner par ce qu'on voit autour de nous. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses réelles, mais notre cœur n'est pas là. Notre cœur ne s'arrête pas en Égypte puis de dire, ah, oh, puis je ne sais pas si Jacob le savait, si Dieu lui avait montré, mais on a 400 ans d'esclavage devant nous. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un peu décourageant quand tu te lèves le matin et tu dis que l'avenir pour les 400 prochaines années, c'est de l'esclavage puis ça va en remplirant. Ouf! Mais le cœur de Jacob n'est pas resté là. Bon, même s'il ne savait pas qu'il avait 400 ans, il savait qu'il n'était pas dans le bon pays, là. Mais par la foi, il s'est prosterné puis il a reconnu que Dieu, ce qui avait commencé, il pouvait le finir. Et Satan veut user de tromperies, de supercheries, de toutes sortes d'affaires pour nous irriter, nous décourager, nous affaiblir spirituellement. Mais il ne faut pas qu'on reste là. Et là, je me prêche à moi-même, comme je vous le dis. Ça donne juste d'être là pour m'écouter. Mais je ne veux pas rester là, parce que Dieu est tout-puissant, ce qui a commencé, il va le finir. Et j'ai cette espérance dans la continuation de la délivrance de Dieu. Je sais que Dieu est celui qui transforme le mal en bien. C'est vrai, Dieu est capable parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Pour ça que Jésus-Christ et sa rédemption, c'est mon refuge. C'est là que je peux toujours retourner dans les temps difficiles. Que ça soit dur, que ça soit des fois désespéré, Dieu ne change pas. Mais avouez que c'est normal d'être désemparé en ce moment. Juste une petite note ici, là. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de vivre quelque chose qui est déstabilisant. On perd nos points de repère. Tu sais, on est des êtres d'habitude. On est des créatures qui avons des habitudes, on fait, OK? Là, tout ce qu'on est habitué de connaître, puis tout ce qu'on... La façon... Qu'est-ce qui est comme avant, puis tout ça? Dites-vous pas, c'est vous qui... Laissez-vous pas virer fou, OK? Ça peut faire virer fou. Littéralement, ça veut dire tout ça. Il y a des gens, on n'entend pas trop parler, mais il y a des gens qui virent fou, qui virent violent, qui se tournent vers ci, vers ça. On est le peuple de Dieu. Dieu Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. On a besoin de se ramener au message de l'espérance, de la grâce de Dieu, que Dieu, ce qu'il a commencé, il va le finir. Oui, c'est difficile. Oui, on est déstabilisé. Mais ce n'est pas la fin pour nous. On sait que Dieu permet ça avec un but qui poursuit. Il faut rester accroché vers lui, sur lui, puis rester les cœurs dirigés vers lui. Ça m'amène au troisième, la troisième espérance que la toute-puissance de Dieu nous donne, non seulement celle de la restauration, non seulement celle de la continuation, mais à la toute fin de la vie de Jacob. En fait, c'est dans les bénédictions de Jacob, juste avant qu'il meure, et celle qu'il donne à Joseph, c'est l'espérance de la bénédiction. 49-22. Vous savez, Jacob a donné des bénédictions prophétiques à ses 12 fils. Mais celle de Joseph est bien significative. Regardez avec moi à partir du verset 22. Joseph, donc ici, là, on lit des paroles dans la bouche de Jacob, okay? Israël, qui bénit ses fils, puis c'est prophétique. Okay? Donc ici, il parle de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Mais ça, c'est tout prophétique et ça dépasse bien au-delà Joseph. Ça nous parle de Christ ici, OK? C'est clair, ça nous parle de Christ. Verset 25, c'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, regardez, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Les autres vont être jaloux là aussi. Tu sais, s'il était jaloux, il a la méchante belle bénédiction lui-là. Il a la totale. J'ai montré ce mot-là à mon beau-frère. On parlait ensemble, je dis c'est la totale. Je disais ça en anglais, mais je ne sais pas comment on traduirait ça en anglais. La totale. Mais c'est ça, lui a eu la totale. L'espérance de la bénédiction au verset 25, hein, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Là, ça donne une série de bénédictions. Et ici, c'est des bénédictions, mais au bout du compte, ça revient à la bénédiction de la postérité promise, la bénédiction de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est cette toute-puissance de Dieu qui nous donne la certitude de l'accomplissement de ses promesses. Pourquoi qu'on est sûr que Dieu va accomplir ses promesses? Parce qu'il est capable de le faire. Parce qu'il est tout puissant. Ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Même si c'est impossible humainement, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. OK? Et on a l'absolue assurance que Dieu, non seulement il peut, mais il va vaincre tous nos ennemis. Ça parlait de l'arc, de ça, de victoire. On a ça dans le Nouveau Testament que Jésus, par sa mort, par sa résurrection, le fait qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu dans la majesté divine, il a vaincu absolument tous les ennemis qui se tenaient sur notre chemin. Et ultimement, même le dernier ennemi, la mort, hein, il y a le salaire du péché, c'est la mort, ça aussi va s'en occuper. Il n'y aura même plus de mort. C'est la phase finale, la consommation. Du fait que Dieu transforme le Dieu en bien. Il a commencé une délivrance, il la continue, puis un jour, il va l'amener complètement à sa consommation. C'est ça la plus grande bénédiction. La bénédiction la plus grande dans nos vies, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous délivrer de toute chute, de tout mal. Et c'est seulement possible par celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà de tout ce que nous demandons, puis même pensons. Puis remarquez, je veux attirer votre attention au verset 24, où est-ce que, à la fin du verset, il dit, Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Ici, c'est deux titres qui sont donnés prophétiquement, évidemment, pour Jésus-Christ. C'est qui le rocher, le berger, le rocher d'Israël? L'Éternel est mon berger, OK? Puis, bon, ça nous parle de Dieu. Et ici, ça nous donne deux caractéristiques fondamentales de la toute-puissance de Dieu. Parce que dans le contexte, il nous parle vraiment du Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob, OK? C'est la première mention. Si vous faites une petite recherche dans vos Bibles, le puissant de Jacob, la première fois qu'on le voit, c'est là. C'est significatif, première mention. Mais, OK, berger. Savez-vous, c'est pas la caractéristique la première qu'on pense. Ah, Dieu est tout-puissant, il est mon berger. Mais pensez à ça. Pour que Dieu puisse garder chacun de ses enfants dans la bonne voie, de les garder de tout mal, d'en prendre soin, non seulement de les protéger, mais de leur prodiguer les soins, non seulement positivement, négativement, de les protéger du mal, mais positivement de leur donner le bien dont ils ont besoin. Il y a juste le Dieu tout-puissant qui est capable de faire ça. De qui serait capable de prendre soin d'un si grand peuple que le peuple de Dieu? Dieu est capable. Dieu est le bon berger. Jésus-Christ est celui qui prend soin de nous maintenant. Et c'est ce que le titre de berger nous rappelle. Et rocher ici, quand on pense à rocher, on pense à la stabilité. Hein, quand ils ont mis mes pieds sur le roc, hein, j'avais le moment... dans le psaume 40, ça dit que... je ne sais même pas en français. « He took me out of the miry clay and set my feet on the rock. » Il m'a sorti de la fosse et il m'a placé mes pieds sur le roc. Et c'est la stabilité. Dans les hauts et les bas de la vie, on a un rocher. Jésus ne change jamais. Okay? Mais aussi, c'est la solidité, c'est... la sûreté. C'est un rocher qui est tellement grand qu'on peut aller se cacher dedans. On peut trouver un refuge. Ça nous parle de ça. Puis même, ça nous parle de sa provision parce que ça nous dit dans 1 Corinthiens, on le voit dans le livre des Normes, on le voit dans le récit inspiré, dans l'interprétation inspirée de ces événements-là dans 1 Corinthiens 10, que le rocher qui suivait Israël puis qui leur donnait de l'eau tout le temps, c'était Christ. Donc le fait que Christ est notre rocher, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de protection, ça nous parle de provision. Avec un tel Dieu, on doit posséder l'espérance de la bénédiction par la foi. Et je crains en ce sens-là qu'on aille surréagi à un mouvement qu'on appelle l'évangile de la prospérité. OK? Les Anglais disent « Name it and claim it ». Nomme-le puis réclame-le. Savez-vous que Satan, des fois, change juste une petite affaire de la vérité? Quand tu dis « Nomme-le puis réclame-le », c'est qui l'initiateur, c'est qui l'autorité, c'est toi. Mais j'aimerais vous dire ce matin, mes amis, si Dieu nomme, si Dieu a une parole, une promesse dans sa parole, c'est lui qui nomme, on peut la réclamer. Il n'y a pas une grosse différence. La différence, c'est qui nomme. Le problème avec l'évangile de la prospérité, c'est « Ah, oh, moi, je veux ici, je le nomme, je le réclame. » C'est faux, c'est moi l'autorité, puis je veux dire, tu peux demander des folies même, ça donne un mouvement de la chrétienté qui s'égare complètement du fondement. Mais mes amis, si Dieu nomme des promesses puis des faits dans la parole, qu'on peut tout par celui qui nous fortifie, si Dieu nous dit qu'on est mort au péché puis vivant pour Dieu, mes amis, on peut réclamer ces vérités comme étant des faits, ces promesses comme étant immuables, et pour nous autres. C'est ça l'assurance de la bénédiction. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est lui qui le nomme. Donc, ça serait pas le croire de pas le réclamer. Faut qu'on vive à la hauteur, à la lumière de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. On dirait qu'on était gênés vu qu'il y a une fausse mouvance qui était trop loin d'un bord. Ben là, on n'ose plus rien demander à Dieu. C'est comme si Dieu, il nous donnait comme ça. Non, Dieu nous a donné, il est généreux, il nous a donné tout complètement en Jésus-Christ. La question, c'est lui qui nomme. C'est lui qui nous dit, « Ah, je te donne ça, puis je te donne ça, je te promets ci. » Vous savez, dans la Bible, il y a des faits, puis il y a des promesses. Les faits, c'est actuel. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Vous savez, c'est pas une promesse, ça. C'est un fait. OK? Si vous êtes un enfant de Dieu, là, vous êtes mort au péché, puis vivant pour Dieu. C'est pas conditionnel, c'est dans le présent, c'est pour tous les enfants de Dieu. Faut juste vivre à la lumière de ça. C'est pour ça que la Bible dit, regardez-vous comme mort au péché puis vivant pour Dieu. C'est un fait, je le reconnais. Mais il y a des promesses aussi. Que si je fais ça, Dieu va faire ça. Il y en a beaucoup de ça. Ça, c'est rattaché à l'avenir. Si tu fais ça, là, tu vas voir Dieu faire ça après. OK? Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, là, Dieu va faire ce que lui a promis de faire. Ça, on peut réclamer ça parce que Dieu nous l'a dit. C'est des faits et des promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est immuable et Dieu est capable de les accomplir dans nos vies. Maintenant, on doit vivre d'espérance. Vous connaissez ce « Je vis d'espérance », ça c'était le préféré de Joseph. Il voulait tout le temps qu'on chante, puis monsieur Lalonde devenait rouge tomate quand on chantait. On doit vivre d'espérance, se nourrir de l'espérance qui est en notre Dieu, se nourrir de l'espérance que Dieu a une délivrance qui n'est pas juste future, elle est actuelle. On peut être délivré de la puissance du péché dans nos vies, et on peut avoir l'espérance que ça continue. Non seulement c'est bon pour mon passé, mais c'est bon pour mon présent. Et je peux vivre avec l'espérance de la pleine bénédiction de Dieu. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça, mes amis, qu'on a besoin de ramener à nos cœurs ce matin. Et Dieu est tout puissant. C'est ça que Dieu peut faire parce qu'il transforme le mal en bien. C'est ce qu'on voit dans la vie de Joseph. C'est ce qu'on voit dans la vie de tous les enfants de Dieu qui se confient en lui. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est encore tout puissant pour continuer à changer le mal en bien. Ce qui change chez nous, ce qui change chez le monde... Des fois, notre foi est vacillante. Mais mes amis, qu'on se rassemble et ensemble au pied de notre bon berger, de celui qui est notre rocher. C'est mon invitation pour la prière qui s'en vient dans un instant. Allons chercher notre refuge, notre abri sûr auprès de celui qui change le mal en bien. Invoquons le Dieu Tout-Puissant pour qu'il fasse ces choses dans notre vie, malgré les circonstances, malgré nous, parce que Dieu ne change pas. Merci Seigneur qu'on peut se confier en toi. Merci que tu es tout puissant et que tu ne changes pas. On voit ta main dans la vie de Joseph et on est émerveillé, on te rend grâce, on voit ta bonté pour délivrer ton peuple à travers l'instrumentalité de Joseph. Mais Seigneur, tu n'as jamais changé. Et d'une certaine façon, vu que tu es en dehors du temps, tu es en ce moment en train d'agir dans la vie de Joseph. C'est comme si c'était déjà... Puis tu es aussi dans le futur, comme si c'était déjà arrivé. Tu ne changes pas, Seigneur. C'est pas parce qu'on est en 2020 et qu'on voit que les choses vont mal, que tu es dépourvu, que tu es moins capable. Seigneur, on veut fixer les yeux sur toi. Notre berger, on a besoin de tes soins. On a besoin de ta grâce restauratrice. On a besoin de la stabilité de notre rocher. Savoir que tu continues, que tu es stable, qu'on peut toujours s'appuyer sur toi. Que tu es un refuge, que tu pourvois avec richesse selon ta grâce en Jésus-Christ. Seigneur, dirige ton peuple maintenant dans la prière. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen, vous pouvez vous lever.